8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous sommes à Dakar, place du souvenir africain. On est face à la mer pour le Forum Jeunesse sur l'économie sociale et solidaire. Nangadef, Dakar. Comment ça va ici ? Ici et ailleurs en Afrique, en tout cas, aucune question ne peut être débattue sans prendre en compte l'âge médian. Au Sénégal, c'est 19 ans. Sur le continent, plus de 400 millions de jeunes de 15 à 35 ans constituent, vous le savez, à la fois une immense force, mais aussi un océan de besoins. Éducation, formation professionnelle, accès à la citoyenneté. Alors, comment financer, comment soutenir les initiatives de la jeunesse pour en faire une voix qui compte et pas seulement un problème démographique? Et du côté des jeunes qui entreprennent, comment convaincre les partenaires financiers, trouver de l'accompagnement, des conseils pour faire aboutir aussi leurs projets dans les quartiers, dans les communautés? Les organisations de jeunesse peuvent-elles avoir un impact réel sur le développement de leur pays? Comment s'inspirer aussi peut-être de modes de financement innovants ailleurs dans le monde? On va en discuter avec nos invités. Merci à vous, le public ici, de les accueillir. Je vous présente Mama Bisseï, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Directrice de la Délégation Générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes du Sénégal, c'est la DER. C'est un organisme public qui a été créé il y a 5 ans, qui est directement rattaché à la présidence du Sénégal et qui est destiné à assouplir les procédures et l'accès au financement de projets. À vos côtés, Mihoub Mezouaghi, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes directeur de l'Agence française de développement, l'AFD, pour le Sénégal, pour la Gambie, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Pape Sambe, bonjour.
Nangadef Emmanuel.
Ça va bien.
Merci.
Vous êtes directeur exécutif d'Ashoka Afrique, fondation spécialisée dans l'accompagnement d'entrepreneurs sociaux. Et puis également, à vos côtés, deux entrepreneurs sociaux qui ont la trentaine. Bonjour Émilie Miki.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Vous êtes venu du Cameroun. Vous avez créé votre propre fondation, Denis Miki à Limbé, dans l'ouest du Cameroun. C'est à 70 km de Douala, mais vous habitez donc dans la partie anglophone. Et on est ravis de vous accueillir en langue française.
N'est-ce pas?
Merci à vous. Vous avez fait un long chemin en plus pour venir. Vous avez été classé parmi les 50 jeunes camerounais les plus influents. Vous avez coaché près de 10 000 jeunes pour les aider à monter leurs projets. Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes passé par les galères il y a près de 10 ans.
Oui, bien sûr.
Laurent Lévesque, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes Canadien.
Oui, Montréalais.
Vous êtes venu spécialement ici. Vous êtes cofondateur et directeur général d'UTIL. UTIL, ça veut dire unité de travail pour l'implantation de logements étudiants au Québec. Et puis on prendra aussi des questions dans le public pour ceux qui veulent bien sûr monter des projets.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Good morning. Bonjour.
Salut les voisins.
Salam alaikum.
Muchas bello.
Buenos días.
A quoi va les voisins et les voisines?
Peut-être on va commencer par le contexte actuel sur le continent africain et pas seulement au Sénégal. Mama Bisseï, est-ce que ce contexte est propice à l'heure actuelle pour accompagner, financer la jeunesse? Je pense à l'inflation, aux problèmes géopolitiques, à la croissance démographique, au réchauffement climatique et tous les besoins de souveraineté alimentaire. Mama Bisseï.
Alors Emmanuel, je pense que le contexte est plus que favorable face à tout ce que vous venez d'énumérer. L'inflation, la crise russo-ukrainienne, Covid étant passé par là, la croissance démographique très forte, il est important aujourd'hui qu'il y ait des dispositifs qui puissent accompagner cette jeunesse internationale, mais de manière beaucoup plus spécifique, la jeunesse sénégalaise.
Ça veut dire que vous, vous êtes assaillis de demandes de jeunes qui veulent déposer des projets, qui veulent être accompagnés par l'ADER, organisme public?
Alors, d'abord, dire un petit mot, l'ADER, c'est cette solution innovante. C'est une innovation de l'État du Sénégal sous l'impulsion du chef de l'État d'avoir mis en place, il y a 5 ans, cette structure pour accompagner justement tout ce challenge et également tout ce foisonnement d'entrepreneuriat qu'on va retrouver partout dans les grandes villes, dans le monde rural. Et aujourd'hui, il est important effectivement que l'ADER puisse répondre, et l'ADER y répond. ce sont des solutions adaptées, des solutions sur mesure pour accompagner sur le financement. Mais attention, Emmanuel, le financement avec aussi son pendant, c'est l'accompagnement non financier. Avant de parler de financement, le prérequis, c'est l'accompagnement non financier sur lequel l'ADER travaille avec des partenaires un peu partout, financiers, stratégiques, techniques, pour pouvoir répondre à cette très forte demande.
Vous avez un budget conséquent?
Alors,
plusieurs milliards de francs CFA?
Ce sont plusieurs milliards de francs CFA. Effectivement, c'est 30 milliards avec le budget de l'État. Mais c'est des programmes, notamment avec l'AFD, la BAD et d'autres structures, la coopération luxembourgeoise, Mastercard et beaucoup de programmes aujourd'hui qui viennent abonder ce budget pour répondre à cette demande exponentielle.
Et cette demande exponentielle, ça veut dire que en pourcentage, vous répondez à combien de cette demande?
Alors,
vous recevez combien de dossiers? Vous répondez à combien?
Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire que l'ADER, c'est près de 240 000 bénéficiaires qui ont été accompagnés en 5 ans. Et c'est plus de 110 milliards qui ont été distribués ou en tous les cas accompagnés en termes d'accompagnement financier et non financier. Mais elle reste très forte. C'est-à-dire qu'on a plus de 400 000 demandes aussi qui sont là. Qui attendent
400 000 dossiers qui sont déposés chez vous.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça s'explique tout simplement par aujourd'hui le rôle que joue l'ADER, parce que ça a été créé pour accompagner une cible informelle qui n'était pas adressée par les banques, donc pas de garantie. On a également une cible de femmes qui allaient vers les banques, mais avec des taux usuriers qui étaient insupportables, mais également avec tous ces jeunes qui sortent du marché de l'emploi et qui veulent entreprendre tout simplement.
Sur ces 400 000 dossiers, vous répondez à combien?
Alors aujourd'hui, c'est plus de 30 à 35% de demandes satisfaites, mais je pense qu'il ne faut pas...
Satisfaites, ça ne veut pas dire forcément financées.
Si, satisfaites veut dire forcément accompagnées, accompagnées techniquement et financièrement. D'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ADER aussi met l'accent sur le partenariat, puisque c'est l'élargissement qui permet à l'ADER de pouvoir avoir d'autres ressources, parce que le nerf de la guerre, Emmanuel, ça reste la ressource financière.
On est bien d'accord. Ce ne sont pas les jeunes qui sont ici qui vont vous contredire. Émilie Miki, vous êtes camerounaise. Vous aussi, donc, je le disais, vous avez accompagné des milliers de jeunes qui cherchaient à entreprendre, aussi bien de l'entrepreneuriat social, d'ailleurs, pour améliorer le bien-être de leur communauté, que des entreprises plus formelles. Vous êtes souvent, vous aussi, submergée par les demandes.
Oui, vraiment submergée, parce que souvent, comme jeune, il y a beaucoup de choses qu'on demande quand on veut postuler pour une bailleur. Donc, on demande les documents, comme les documents d'enregistrement, pour enregistrer déjà l'argent. Les jeunes n'ont pas l'argent pour enregistrer les structures. On doit payer peut-être un document pour le financement. C'est difficile. Donc, comme jeune, ce n'est pas facile. Et beaucoup plus les jeunes filles. Comme moi, je suis jeune et je suis mère d'une enfant. Je dois quitter le Cameroun pour venir ici. Mon enfant fait comment? Donc, il n'y a pas le soutien social et tout pour les filles, pour les jeunes filles. Et dans le quartier, comme tu disais, la vie est différente. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le quartier, dans les zones rurales, qu'on doit mettre ça en pratique parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de soutien. Comme moi, je suis mentor.
C'est ça, des mentors, des accompagnateurs. Oui. Ils n'ont pas forcément de compte bancaire. Donc, comment organiser la traçabilité de l'argent pour les bailleurs aussi, c'est compliqué.
Oui, vraiment compliqué.
Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est quand ils veulent monter un projet, monter une initiative pour les jeunes, ils doivent commencer par dépenser de l'argent avant de trouver de l'argent.
Oui, oui. C'est un business. Vraiment, c'est un business. Tu ne peux pas faire un business sans un capital. Donc, il n'y a pas le capital pour les jeunes.
Émilie, est-ce que le conflit au Cameroun anglophone a aggraver les possibilités pour les jeunes d'accéder à des financements?
Oui, moi je suis anglophone d'abord et j'habite là où il y a le conflit. Et depuis que ça commence en 2016, il y a beaucoup de bailleurs qui ont fui les zones anglophones, donc ils ont enlevé leur soutien là-bas. Donc j'ai perdu beaucoup de partenaires comme ça. Il y a des jeunes aussi comme ça qui n'ont pas eu le soutien parce que beaucoup de projets ne viennent pas encore vers les zones anglophones. Donc ça veut dire déjà que le conflit est déjà un blocage pour les jeunes. Pas seulement au Cameroun, mais dans tous les pays africains, là où on a le conflit. Donc on dit maintenant aux bailleurs, au gouvernement, qu'on doit chercher le moyen pour peut-être la solution de conflit, parce que le conflit n'est pas bon. Il n'y a pas l'école au Cameroun depuis 2016.
Dans certaines régions.
Oui, dans certaines régions, oui.
Pape Sambe, Bourachoka, est-ce que, on a énuméré certains freins, notamment dans les régions où il y a des conflits, mais est-ce que vous diriez que tout de même la jeunesse n'a jamais été aussi bien armée pour monter des projets, accéder à des financements, notamment grâce à Internet finalement, même si on sait bien que les données mobiles font partie des plus chères de la planète sur le continent africain, même si c'est compliqué d'ouvrir un compte en banque, malgré ces freins-là, est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse est dans une bonne position ?
Pas nécessairement, parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas la disponibilité de l'accompagnement, mais c'est l'accès à l'accompagnement des jeunes. Il y a beaucoup d'institutions qui peuvent financer, mais est-ce que les jeunes sont éligibles par rapport au taux d'intérêt, par rapport à la compétence, par rapport à l'expérience, par rapport à la capacité de pouvoir développer, élaborer des projets ? Donc, moi, je dis que ce n'est pas nécessairement, parce qu'il y a actuellement une nouvelle réalité, c'est la nouvelle réalité de l'inégalité qui existe dans ce monde, qui crée beaucoup de conflits. Donc pour moi, il y a un écosystème d'accompagnement qui doit être créé et qu'il y a aussi la compréhension de la jeunesse en entier pour pouvoir définir des produits et des services accessibles aux jeunes. Donc tout ça pour moi, c'est la compréhension de l'écosystème que chaque partenaire doit comprendre pour pouvoir définir un produit ou bien des services adéquats à ces jeunes qui sont différents en fonction des communautés, qui sont différents en fonction des réalités. Et ça aussi, amener ça au niveau public pour que des lois puissent être érigées et votées pour changer ces contextes.
Mais avec ces exigences que vous énumérez de la part des partenaires financiers, des bailleurs que vous représentez, est-ce que ça ne crée pas aussi une immense frustration pour la jeunesse, Mihoud Meswaghi, pour l'Agence française de développement ?
Sans doute, oui. Mais je pense que votre question, en fait, c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. Alors, à moitié vide, effectivement, les contraintes sont fortes, et ce d'autant plus de ce que disait Pape, quand l'écosystème n'est pas structuré, pas constitué, ça crée des difficultés fortes. Aujourd'hui, quand vous interrogez les entrepreneurs, la première contrainte, en fait, c'est l'accès au financement. Donc ça, c'est effectivement le verre à moitié vide, mais après, il y a le verre à moitié plein. Beaucoup de gens considèrent que, au fond, une crise, c'est une opportunité ou c'est des opportunités. Et je crois que nous vivons un peu cette période-là. Et a fortiori, depuis ces 3-4 ans un peu de chamboulement, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités.
Pensez au Sahel, notamment ?
Je pense au Sahel, mais je pense qu'il ne faut pas essentialiser non plus le sujet. Je pense au monde, en fait, entier. Alors, puisqu'on parle à 8 milliards de voisins et de voisines, les jeunes du Sahel, d'Afrique ou d'Europe ont le même problème. Le problème qu'ils ont, au fond, aujourd'hui, c'est un problème d'inclusion, d'inclusion économique.
Et que ils ne veulent pas être laissés sur le bord du chemin.
Oui, et puis si vous prenez... Alors aujourd'hui, effectivement, quand vous voyez la croissance démographique, tout le monde s'affole en disant qu'elle est très forte sur le continent. Et donc, il y a un problème d'inclusion économique, soit. Il y a aussi ce problème-là en Europe. Et qu'aujourd'hui, quand vous prenez le taux de chômage des jeunes en Europe, il est aussi plus élevé que la moyenne. Donc ça veut dire qu'au fond, c'est un sujet de transformation des économies. Donc du coup, et puis c'est un peu le sujet que les uns et les autres au fond, auxquels sont confrontés, c'est comment cette économie peut se transformer pour pouvoir effectivement ouvrir des espaces à ces opportunités.
Je voudrais qu'on donne la parole à Basile qui est dans le public, qui veut poser une question.
Merci beaucoup. Moi, c'est Basile Ouedraogo. Je suis chargé de mission éducation à la citoyenneté du laboratoire d'innovation sociale, l'ABIS Dakar. Nous sommes installés à Pitimba, vraiment en plein banlieue de Dakar. Nous sommes un centre de compétences pour jeunes qui fait également incubateur et tiers-lieu. Alors, dans notre quotidien, dans la banlieue, on reçoit énormément de demandes de jeunes et toutes ces demandes ont un lien avec leur insertion. L'auto-emploi, notamment. Le Labis, à travers son équipe et ses efforts, ses partenaires déjà qui financent en partie le projet dans l'AFD. Merci beaucoup au directeur de l'AFD qui est là. Alors, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. L'accompagnement financier des projets que nous incubons en banlieue. Nous avons vraiment une technique d'accompagnement à travers un tunnel, un parcours qui nous permet d'avoir des projets assez solides et nous avons un parcours également de suivi évaluation pour assurer l'accompagnement de ces projets. Nous finançons quelques projets, mais avec des petits montants minimes. Nous, ce que nous appelons des fonds d'amorçage. Aujourd'hui, comment justement la DER peut collaborer avec des structures comme le Labis pour apporter un soutien beaucoup plus important à ces entrepreneurs? Vous connaissez la banlieue, vous savez que toute la jeunesse sénégalaise est dans la banlieue. Accessibilité, la DER est à Dakar. Un entrepreneur qui a besoin de la DER, il faut qu'il vienne à Dakar. Et nous, on sait que ce n'est pas facile d'arriver à Dakar.
Il faut payer le bus.
Donc, nous sommes avec les jeunes là-bas. On a besoin que la DER vienne avec nous pour accompagner ces jeunes. Merci.
Merci Basile. Mama Bissaï de la DER, donc direction de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.
Merci Basile pour cette question qui me permet aussi de rebondir un peu sur l'accessibilité de la DER. La DER n'est pas qu'à Dakar. La DER aujourd'hui, c'est dans les 46 départements du Sénégal, parce que le Sénégal ne se limite pas non plus qu'à Dakar. Et aujourd'hui, une structure comme la vôtre, l'ABIS, qui se trouve en banlieue, aujourd'hui, nous avons des pôles emploi. Vous savez, le chef de l'État, en 2021, a décidé de mettre en place dans tous les départements du Sénégal un pôle emploi qui a un guichet unique aujourd'hui pour accompagner les jeunes, que ce soit pour de l'information tout court, pour de la formation, pour de l'emploi ou pour de l'auto-emploi. Donc aujourd'hui, une structure comme l'ABIS a plusieurs possibilités. C'est de se rapprocher des pôles emploi, mais c'est également de pouvoir se rapprocher de la DER. Je pense qu'on a eu à échanger tout à l'heure pour voir aujourd'hui comment créer des passerelles. Mais Basile, tu l'as si bien dit, ça passe par un parcours. Le parcours de l'entrepreneur ne peut pas aboutir tout de suite sur du financement. Et j'ai l'habitude de dire qu'on peut être accompagné et sans pour autant prétendre au financement.
Là, Basile nous parle de fonds d'amorçage. Vous aussi, d'ailleurs, vous proposez des nanocrédits. Alors, qui sont des fonds d'amorçage.
Justement.
Mais c'est souvent très vite insuffisant. Il faut arriver plutôt ensuite à des crédits
beaucoup
TPE, très petites entreprises.
Tout à fait. Alors,
un exemple.
Je vais donner le nanocrédit. Le nanocrédit, c'est un peu ce fonds d'amorçage qui démarre de 50 000 à 500 000 francs. Et aujourd'hui, c'est plus de 137 000 bénéficiaires dans tout le Sénégal. Et ça accompagne des jeunes, des femmes, des groupements qui aujourd'hui viennent pour pouvoir démarrer. Un exemple simple, quand je prends les femmes qui travaillent aujourd'hui au marché central aux poissons de Pékin, on est vraiment dans une activité quotidienne où on a besoin de développer son activité. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce sont des femmes qui avant allaient tout simplement arriver au marché aux poissons, donc au quai de pêche, vont trouver des personnes pour leur dire « Voilà, j'ai besoin d'acheter 5000 francs de poissons et de vous rendre 5000 francs en fin de journée ». Et donc, il y avait des personnes, donc des usuriers qui étaient là et qui étaient prêts à prêter 5 500, par exemple. À la fin de la journée, on rembourse 5 500. Et ça, ce taux usurier, aujourd'hui, on s'est rendu compte, la DER est venue accompagner en disant, on enlève ce taux usurier pour permettre à ces femmes de s'autonomiser, d'avoir des ressources et de pouvoir rentrer avec quelque chose. Puisqu'on ne parle pas que de rentabilité, parce que quand la DER accompagne, il y a de l'éducation financière. Et au-delà de l'éducation financière, c'est de pouvoir accompagner tout simplement le bien-être des familles. Et aujourd'hui, c'est ce nanocrédit. Au-delà du nanocrédit, Emmanuel, nous avons d'autres crédits. C'est le microcrédit où on est à des stades supérieurs.
Vous avez cité le cas des femmes qui travaillent dans le secteur de la pêche. Dans le secteur des start-up, il y a eu une loi qui a été adoptée en janvier 2020 pour faciliter et mieux formaliser les entreprises du digital. Pourquoi il n'y a toujours pas le décret d'application?
Alors, ces décrets sont en cours aujourd'hui avec les ministères concernés de pouvoir faire en sorte de créer beaucoup plus de facilité, inciter à ces jeunes entrepreneurs aujourd'hui à travers la fiscalité, à travers ce cadre. Mais je pense, Emmanuel, il ne faut pas négliger. Cette loi a été votée en 2020. On a eu cette période Covid qui a pris beaucoup de temps. Mais déjà, le cadre de la DER offre aujourd'hui à toutes ces start-up. Quand je dis DER, c'est aujourd'hui plus de 415 start-up qui ont été accompagnées techniquement, financièrement aujourd'hui dans leurs activités, formées aussi. Donc je pense que le cadre, c'est très important quand on parlait d'accès au financement, d'offrir un cadre qui puisse permettre à une start-up, à une jeune femme qui vend ses cacahuètes au bord de la rue, de pouvoir accéder aujourd'hui à un accompagnement, qu'il soit non financier et financier.
Alors on va quitter peut-être le monde de l'économie informelle, parce que je voudrais qu'on parle du cas du Canada avec vous, Laurent Levesque. Parce que chez vous aussi, les jeunes ont des problèmes pour financer leurs initiatives. Vous avez commencé à vous intéresser à la question du logement étudiant pendant vos études. C'est un problème qui n'intéressait pas grand monde à l'époque. Mais je peux vous dire qu'ici, la question du logement étudiant, elle intéresse beaucoup de monde. Comment vous en êtes venu à innover et à inventer un financement de logement étudiant assez singulier finalement ?
Bien, je vous dirais, Emmanuel, que ce que j'entends jusqu'à maintenant, ça résonne avec mon expérience. C'est sûr que ce n'est pas le même contexte, mais quand on a décidé, comme un groupe de jeunes, jeunes vingtaines, récemment diplômés, de s'attaquer à cette question du logement digne des jeunes à travers l'entrepreneuriat jeunesse, on avait le même contexte. On commençait sans structure, sans financement, sans expérience, toutes des conditions préalables à l'obtention de financement. Donc, on est passé, nous aussi, par des nano-financements au début, même dans un projet d'aussi grande envergure éventuellement que les projets de construction immobilière qu'on a fini par réaliser. Au début, ça nous prenait juste quelques milliers de dollars pour être capable d'ouvrir les comptes en banque, faire le plan d'affaires, commencer à monter ça. Puis aujourd'hui, on a 400 logements, 600 logements même, incluant ceux qui sont en construction dans différentes villes du Québec.
Comment vous avez trouvé de l'argent pour construire 600 logements étudiants alors que vous n'aviez pas d'argent?
Bien, pour moi, j'appelle ça la théorie des dominos. Il faut empiler les dominos l'un après l'autre en commençant par des tout petits montants avec des premiers partenaires qui sont prêts à faire confiance et avec ça, aller chercher la confiance d'autres partenaires. Mais c'est pas facile puis c'est pas donné d'être capable d'aller chercher des financements conséquents quand on est jeune. Et c'est essentiel qu'il y ait des acteurs dont c'est la mission de prendre des risques avec les jeunes, de faire confiance à des jeunes qui n'ont pas encore fait leurs preuves parce que, comme disait Émilie, on n'a pas au début les structures, les incorporations, même les documents. Donc, les premiers acteurs ont pris plus de risques. Ça a permis de sécuriser les autres partenaires plus traditionnels qui sont embarqués éventuellement. Puis aujourd'hui, on a des projets qui ont une valeur de plus que 100 millions de dollars canadiens.
Vous ne visez pas le profit?
Non, c'est une des particularités de notre modèle. On vient répondre aux besoins de cette population qui est assez peu lucrative. Hein? La population étudiante, elle n'a pas beaucoup de revenus. Donc, on est une association à but non lucratif et on fait des logements au prix coûtant.
Oui, alors je peux vous dire qu'ailleurs dans le monde, y compris à Dakar, il y a des gens qui gagnent de l'argent avec le logement étudiant. Hein?
Oui, mais ils ne vont pas répondre aux besoins de l'accessibilité aux études de l'ensemble de la population étudiante. Hein. C'est ça la réalité. Nous, notre mission, elle est de favoriser l'accès aux études, surtout dans un contexte où il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui doivent se déplacer d'une région à l'autre. Pour
quand au départ, vous avez imaginé que ce soit des organisations étudiantes qui commencent elles-mêmes par mettre la main au portefeuille, on vous a dit que vous étiez complètement utopique?
Oui, absolument. Une des particularités de notre modèle, c'est qu'il y a eu des financements étudiants qui ont permis de servir aussi, encore une fois, d'être un des premiers dominos. Il y a des organisations étudiantes qui ont mis des montants, souvent 5 % d'un projet, mais 5 % d'un projet, c'est le début qui montre aux autres partenaires qu'il y a de l'argent sur la table et il faut faire confiance aux jeunes, il faut prendre des risques puis il faut participer au montage.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour que ce soit pour Ashoka, pour l'Agence française de développement, quand des jeunes viennent vous voir et qu'ils ont déjà trouvé de l'argent par eux-mêmes de manière parfois assez stupéfiante. Est-ce que c'est quelque chose qui vous incite à les suivre?
Oui, bien sûr. Après, la particularité peut-être d'une structure comme l'Agence française de développement, donc qui appartient à cette famille un peu des banques internationales, on est peut-être plus en amont de la chaîne de financement. Et au fond, on va s'appuyer sur des partenaires qui, eux, sont plus près du terrain et qui sont plus près de ces demandes individuelles. Donc tous les camarades qui sont autour de cette table, au fond, sont des partenaires, soit actuels, soit potentiels, d'une structure comme l'Agence française de développement.
Ce qu'il fait nous parle à 200%, parce que nous, en fait, ce qu'on fait, c'est amplifier des gens comme Laurent, donc, qui sont des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas attendu un financement, qui n'ont pas attendu un accompagnement pour pouvoir démarrer quelque chose. Parce que lui, il a vu un problème en tant qu'étudiant et il a décidé de régler ce problème. Nous, on prend Laurent et on lui donne un capital en termes de stipend, c'est comme un salaire qu'on lui donne pendant 3 ans sans rapport ni rien, juste pour lui permettre de se libérer de ses activités professionnelles pour se concentrer à 100%.
Donc, et vous, Émilie Miki, depuis 10 ans que vous êtes sur le terrain en tant que jeune et puis un peu moins jeune à force d'avoir de l'expérience, que sont devenus les jeunes que vous avez accompagnés depuis près de 10 ans?
Okay.
Vous pouvez nous donner quelques exemples?
Je voudrais juste parler de soutien de voisins, parce que comme on est sur voisin de voisin, oui. Parce que quand j'ai commencé moi-même, j'ai demandé l'argent aux membres de famille. J'ai demandé l'argent.
Dans votre quartier?
Oui, les gens qui sont à côté de moi.
Des gens qui n'avaient pas d'argent, oui. Et qui vous ont prêté de l'argent?
Pas prêté comme le donne. J'ai demandé comme ça, donc il y avait les gens qui donnaient 1 dollar, 10 dollars, 5 dollars. Et c'est pour ça que je veux dire aux jeunes qu'il ne faut pas garder l'espoir, et il faut demander. Parce que souvent, quand tu demandes, on se moque, n'est-ce pas? Parce que quand j'ai eu mon master, j'ai commencé les ONG, j'ai commencé à demander l'argent. Beaucoup de gens dans mon quartier ont dit elle n'a pas l'espoir, elle a gardé la vie, elle n'a rien à faire. Et c'est après peut-être 3 ans de demander aux gens de famille que, pardon, aidez-moi, je vais faire un projet, donne l'argent, je vais faire un projet. Et après ça, j'ai eu une opportunité avec le gouvernement des États-Unis là où j'ai parti aux États-Unis. C'était un programme que le président Obama a commencé. Et l'année après, j'ai parti voir le président Obama. C'est là où on a commencé de voir que il y a des choses que je faisais.
C'est ça. Vous avez commencé en demandant $1 dans le quartier et vous avez atterri à la Maison Blanche.
Oui, vraiment.
C'était sur quel projet, celui-là?
Mon ONG, Dennis Mickey Foundation, donc c'est une ONG qui est basée au Cameroun. On travaille avec les jeunes, les femmes dans les zones rurales. Et ce que je fais avec mon équipe, c'est qu'on monte les projets qui travaillent sur la santé, l'éducation, le développement des zones rurales. Donc on touche dans le système public, on travaille avec les gens, autres communautés. Donc ça veut dire qu'on part dans le communauté, on voit les problèmes. Et avec les membres du comité, on montre une solution. Avec cette solution, on bâtit un projet. On cherche le bailleur qui donne l'argent et on travaille avec eux. Et ça fait...
On retient cette phrase que vous avez dit tout de même. Hein. Ne gardez pas l'espoir, agissez.
Oui.
Sous-entendu, ne restez pas les bras croisés en pensant que le ciel va vous aider. Peut-être que ça pourrait prendre un peu plus de temps que prévu.
Oui, franchement.
Vous restez avec nous. On se retrouve juste après... Le choix musical de Steven, le réalisateur de l'émission qui est avec nous à Dakar, tout spécialement pour vous les voisins, Samba Pedi, chez 8 milliards de voisins. À Dakar, on revient dans quelques instants.
Sohla mer man ko si fight way fatama
à Dakar, sur la place du souvenir pour cette première partie du grand forum mondial de l'économie sociale et solidaire. On est dans ce forum jeunesse qui évidemment s'intéresse aux initiatives des jeunes, comment les accompagner, comment les financer. On en discute avec nos invités, Mama Bissey de la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Mioub Mezouaghi de l'Agence française de développement, Pape Samb d'Ashoka Afrique, Émilie Miki qui a créé sa propre fondation au Cameroun et qui est venue nous raconter aussi son expérience de jeune, et Laurent Lévesque qui a commencé dans le logement étudiant alors qu'il était étudiant avec des financements très innovants, en commençant par demander de l'argent aux organisations étudiantes et ensuite bien sûr pour décrocher des financements beaucoup plus importants. Et bien sûr, nous vous donnons la parole dans le public. Bonjour Mamba.
Bonjour Emmanuel. Je suis entrepreneur social. J'ai cofondé Make Sense Africa en 2014, il y a 8 ans. Aujourd'hui, on a une vingtaine de collaborateurs avec lesquels on travaille et tous les mois, on galère à les payer leur salaire. Et de l'autre côté, on a les institutions qui font les travaux comme les nôtres, ne nous confient pas ces missions-là. Et on galère aussi à avoir accès au financement auprès des banques parce qu'ils disent qu'ils ne reconnaissent pas les institutions comme les nôtres qui sont des associations qui ont décidé d'entreprendre pour résoudre des problèmes de société et de l'environnement. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de modèle économique. On a des modèles économiques qui ont de la valeur et qui méritent d'être payés, en fait. Donc, voilà. Pourquoi ce manque de capital confiance aux organisations, notamment des entreprises sociales et associations entrepreneurs responsables?
Mamba, vous aviez aussi une autre question sur la durée de financement des programmes.
Aujourd'hui, en fait, on ne finance pas beaucoup tout le travail d'amont. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a 3 ans pour ne pas mourir dans l'écosystème entrepreneurial. Si tu crées ton entreprise, en 3 ans, tu as le temps de mourir 5 fois.
C'est pareil pour les chefs d'entreprise.
En fait, il y a des jeunes entrepreneurs qui sont là, qu'on a accompagnés il y a 10 ans. Ils sont là, qui viennent du Togo, qui viennent du Mali, etc. C'est des jeunes qui n'ont pas d'accès au financement. On les accompagne et personne ne paye ce travail d'accompagnement-là. C'est difficile. Et de l'autre côté, nos institutions, nos gouvernements, je vais dire, ils vont aller créer d'autres structures pour venir faire la même chose que nous, qui nous avons dédié notre vie à faire cela.
Et la question sur les durées de financement, Mamba?
En fait, qu'est-ce que ça, c'est peut-être pour l'AFD directement. Aujourd'hui, quelle est la durée de financement que vous pouvez accorder aux organisations? Déjà, si c'est possible de financer des organisations comme les nôtres directement, comme vous financez l'État, et quelle serait cette durée-là?
Oui, je vais rebondir quand même sur la question clé qu'a posée Mamba sur la question du capital confiance. On est quand même dans une économie qui est globalement informelle. 90% aujourd'hui de l'économie, de l'emploi, pardon, est informel. Et puis, lorsque vous regardez le tissu entrepreneurial, c'est près de 80% d'entrepreneurs individuels. Donc tout ça, objectivement, ça ne crée pas de la confiance. Parce que la confiance aime les règles. Mais je pense qu'on est quand même tous dans des structures où on doit prendre ce risque. C'est-à-dire, sinon, objectivement, quelle est notre mission, quel est notre mandat, si on ne prend pas ce risque. Et peut-être que Mamba faisait référence à un projet, une initiative, qui est la leur, qui est celle du consortium jeunesse du Sénégal, qui est effectivement d'essayer de structurer, alors aujourd'hui, dans la banlieue de Dakar, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais une maison de la jeunesse, ils trouveront le terme qui est le plus approprié, qui permet effectivement de pouvoir, au plus près du terrain, de fournir un ensemble de services d'accompagnement des entrepreneurs et puis objectivement des jeunes qui sont...
Un consortium que vous accompagnez financièrement à hauteur
Qu'on accompagne financièrement à hauteur de 8 millions avec
8 millions
l'enjeu...
d'euros,
8 millions d'euros, avec l'enjeu qui a été indiqué. On est dans un pays qui est hyper polarisé sur Dakar et donc l'enjeu effectivement c'est que tout ça ruisselle sur l'ensemble du territoire et l'idée c'est effectivement de dupliquer leur modèle. Je dis bien leur modèle, de le dupliquer sur l'ensemble du territoire et notamment sur des régions comme le Kédougou, Tambacounda notamment.
Bon, sur l'histoire du capital confiance, on peut même aller plus loin, l'infantilisation parfois des organisations de jeunesse par les bailleurs, par les partenaires financiers. Laurent Levesque, vous souhaitez intervenir?
Oui, la question de Mamba a vraiment résonné avec mon expérience. Nous, ça nous a pris 7 ou 8 ans avant de réaliser notre projet entrepreneurial au point d'être autofinancé. Donc, pendant toutes ces années-là, on a payé quelques salariés grâce à une combinaison de vraiment beaucoup de financements. Et même si on a des institutions financières qui sont favorables à l'ESS au Québec,
à l'économie sociale et solidaire,
c'est pas les banques ou les institutions financières qui nous ont soutenus pendant ce temps-là. Ça a été possible, entre autres, on a emprunté pendant ces années-là pour survivre puis payer les salaires, mais ça a été possible parce qu'il existait au Québec des organes de financement spécialisés en économie sociale avec la reconnaissance que dans notre structure, on n'a pas de capital action, on n'a pas d'actionnaire, ça prend des mécanismes de financement adaptés à l'économie sociale. Puis ça a été critique au fait qu'on a été capable de survivre à travers ces années-là dans un contexte où on avait assez peu de capital confiance.
Sur les durées des programmes, la plupart d'entre vous vous financez sur une durée de programme. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Nous, une fois que tu viens dans le collectif, l'écosystème de HEK, que ce soit que tu es un innovateur social ou un changemaker, c'est à vie. Donc, il n'y a pas de durée. C'est à vie. On t'accompagne à vie pour pouvoir vraiment te mettre en charge.
Pour bénéficier d'accompagnement, mais pas pour l'argent. Le programme financier, il n'est pas à vie chez vous.
Non, pour l'argent, c'est 3 ans de financement.
D'accord. Donc, on revient à la question de Mamba. Mesouagi, rapidement.
Oui, peut-être pour répondre aussi à la question de Mamba sur la durée des programmes. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est des programmes qui sont de 3 à 5 ans. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Alors, objectivement, et puis on doit quand même la franchise aux auditeurs, c'est que ça donne un délai de 3 à 5 ans. On a dit que c'était de l'investissement. Objectivement, une maison comme l'AFD investit dans ce capital confiance. Et ensuite, bien sûr, à charge de la structure de faire la démonstration qu'elle est sur un modèle économique qui s'autoporte, qui est pérenne, comme disait Abby tout à l'heure, et que ce renforcement de ce capital confiance va lui ouvrir d'autres opportunités. Alors, pas forcément avec l'AFD, peut-être avec des structures locales comme l'ADER ou autres, ou peut-être d'autres partenaires financiers. Donc, je pense que c'est important de dire que ces financements, c'est des financements qui permettent d'amorcer souvent, de prendre un risque que d'autres ne prennent pas, que le secteur financier ne prend pas, mais aussi à charge du promoteur du projet de pouvoir faire la démonstration que c'est pérenne et durable.
Oui, et qu'en est-il, Émilie Miki, vous qui êtes camerounaise, quand le bailleur, le partenaire financier veut reprendre la main sur votre projet ? Ça vous est arrivé déjà ?
Oui. souvent, on me demande, tu es sûr que tu peux porter l'argent là ? Parce qu'il y a des questions comme ça. Que tu es jeune, c'est une organisation jeune, est-ce que tu peux gérer cette montante de l'argent ? Donc, c'est une question de confiance qui n'est pas là. Et je voudrais mettre un doigt sur quelque chose. Parce que ce que les jeunes font, on pense qu'on doit faire ça volontairement. Donc, ça veut dire qu'on fait ça sans le salaire, sans l'argent de poche. Mais ce qu'on fait, c'est ce que le gouvernement font, c'est ce que le bailleur de fonds font, et ils ont le salaire. Donc, le salaire, beaucoup, beaucoup même, hein, donc ce n'est pas un petit argent. Donc, on travaille, on est dans la communauté avec les personnes qui ont besoin de l'aide et tout, mais on ne paye pas.
Vous avez travaillé combien d'années gratuitement, Émilie Miki, pour la jeunesse de votre pays ?
Ça fait maintenant plus de 10 ans. Donc, depuis 2011-2012 que je suis sur le terrain, je n'ai pas un salaire. Il y a des structures comme Ashoka qui donnent le soutien pour les gens, mais ce n'est pas beaucoup. Ils soutiennent combien de gens ? Et le procédure même pour entrer dedans comme ça, c'est compliqué aussi. Donc, on doit changer toutes ces choses. On doit changer toutes ces choses parce que les gens font le travail dans le terrain, mais on ne les soutient pas. On ne donne pas le soutien moral, on ne donne pas le soutien médical, on ne donne pas le soutien social. Donc, ça veut dire qu'on travaille, il n'y a pas l'assurance, il n'y a rien. Il y a beaucoup de temps que je suis sur le terrain, j'ai eu de l'accident, c'est moi qui paie pour mes médicaments. J'ai eu les choses parce que j'étais avec une réunion, peut-être avec le ministère ou bien un centre diplomatique. Et quand je rentre chez moi, j'ai eu l'accident ou même peut-être la vol. On a tout pris, j'ai perdu tout ça.
Il faut tout recommencer.
Oui, et c'est moi celle qui doit commencer encore. Donc, il n'y a pas l'assurance, il n'y a rien de soutien pour les jeunes. Donc, on doit changer les choses.
On prend une dernière question dans le public.
Bonjour à tous, je suis Fresnel Mambondou, je viens du Gabon. Je travaille dans une ONG qui s'appelle Ogolabs en tant que coach formateur en entrepreneuriat et je suis également le coordonnateur du programme La Voix des Jeunes pour le développement durable. Alors aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'accès au financement et c'est très intéressant pour les jeunes lorsqu'ils veulent se lancer en entrepreneuriat. Mais il y a un autre problème qu'il faut aussi analyser, un autre défi qui est celui du développement et de la pérennité des initiatives des jeunes, notamment la question de l'accès au marché. Donc très rapidement, ma préoccupation, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut développer ou bien quels sont les programmes qu'on peut développer pour permettre aux jeunes d'avoir accès aux marchés régionaux et internationaux pour répondre à la question du développement et la pérennité des entreprises, parce que seulement une entreprise sur 10 des jeunes dépasse 5 ans. Et ça, il faut rapidement y remédier. Merci.
Un élément de réponse rapidement.
Alors très rapidement, Fresnel, je pense que l'accès au marché, c'est également dans le parcours de l'entrepreneur. Je pense qu'avant d'accéder au marché, il y a toutes ces différentes phases qui font qu'une entreprise ou une filière devient porteuse. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du lait, ça peut être l'anacarde au Sénégal ou la mangue, où il faut arriver à un stade, c'est-à-dire qu'on puisse accompagner tous les niveaux de création de valeur pour pouvoir ensuite ouvrir et accompagner aujourd'hui une structure, une start-up ou un GIE à pouvoir accéder au marché. C'est ça la promotion de l'entrepreneuriat, ça passe donc par cet accès au marché et il faudrait passer tous les stades avant pour pouvoir s'ouvrir à ça. Donc c'est un programme dédié, spécifique et qui n'est pas valable pour un néo-entrepreneur par exemple, au niveau de l'ADER, d'être accompagné tout de suite dans l'accès au marché. Ça passe par un parcours.
Laurent Levesque, est-ce que parfois, vous, sur le marché du logement étudiant, votre objectif, c'était de calmer les prix de l'immobilier étudiant ? Vous y êtes parvenu, en partie ?
Oui, on commence à y arriver. La solution, c'est qu'il faut être capable de prendre des initiatives qui sont au début une innovation ponctuelle, puis les changer d'échelle. Ça, c'est le nouveau défi dans lequel on rentre. Puis c'est le défi aussi pour être capable d'avoir un impact sur le marché puis de rentrer sur le marché, c'est d'élargir une initiative. Pour nous, notre objectif, c'est d'arriver à loger 10 000 jeunes au Québec. Donc, pour ça, il faut être capable d'avoir les financements, pas juste pour commencer, mais aussi enchaîner les dominos pour être capable de croître et de répondre aux besoins à l'échelle des besoins.
On arrive au terme de cette émission. J'aimerais vous demander aux uns et aux autres, quels sont vos conseils, vos messages clés pour la jeunesse qui est là, qui vous écoute, pour mettre en œuvre leurs initiatives, pour peut-être voir plus grand, accéder à des financements, accéder à des partenaires qui peuvent les accompagner, qui peuvent leur donner des conseils. Quels sont vos messages? Mioud Mezouaghi pour l'Agence française de développement.
Non, moi j'ai deux messages à la jeunesse qui nous écoute et puis aussi aux décideurs. Alors d'abord aux décideurs, je pense que ce qui a été dit quand même pendant une heure, c'est quand même une chose, c'est faire confiance. Et donc je pense qu'aux décideurs à prendre aussi leur responsabilité à faire davantage confiance et à faire ce pari de la jeunesse et donc de prendre ce risque. Et puis aux jeunes, je pense qu'on n'en a pas parlé forcément, mais on a beaucoup dit, il faut des effets d'entraînement, il faut que ça ait un impact un petit peu qui aille au-delà juste du projet.
Et donc ça, et du quartier. Lui-même.
Et ça veut dire une chose, à mon avis, ça veut dire l'action collective. Alors l'action collective, c'est se regrouper, voilà, pour dire les choses plus simplement, plus clairement, se regrouper. Donc typiquement, si on reprend l'exemple, puisque nous sommes au Sénégal, et on peut citer cet exemple de nouveau du consortium Jeunesse et Sénégal.
On y sera demain dans l'émission.
Et vous y serez demain, et donc vous leur poserez la question. C'est au fond, pas seulement financer le consortium, c'est financer les 300 organisations sociales de la société civile qui sont impliquées. Donc c'est ça un peu le conseil, c'est ne restez pas isolés, regroupez-vous, parce que ça donnera du rapport de ça donnera du pouvoir de négociation dans le rapport de force.
Pape Samb, pour Ashoka.
Je pense que je lui rejoins d'abord. Il faut que se regroupe et il faut pouvoir défier ou challenger le financement classique et traditionnel pour permettre aux organisations de penser un peu plus large au niveau de l'élaboration des termes de référence et tout ça. Mais aussi, il faut que le jeune aussi se fasse une crédibilité, une confiance et puis créer quelque chose qui a un peu de traction pour pouvoir convaincre comme Laurent l'a fait. Merci.
Émilie Mickey.
Pour moi, je peux dire aux jeunes qu'il faut connaître ce que le bailleur veut faire, parce que maintenant, c'est ce que j'ai vu dans le terrain, parce qu'on a ce qu'on veut faire et on a ce qu'on fait, mais le bailleur ne donne pas le soutien pour ça. Donc, il faut gérer pour faire que ce que tu fais passe avec ce que le bailleur veut faire. Parce que maintenant, tu peux avoir peut-être une bonne idée. Tu pars vers un bailleur, il va dire, on ne soutient pas ça. Souvent, j'ai eu ça. Donc, il faut changer son manière de gérer ça, ont aussi bien structuré les projets.
Oui. Laurent Lévesque, dernier mot.
Très d'accord avec tout ce qui a été dit. Et j'ajouterais qu'il faut s'entourer. Et derrière des succès d'initiatives jeunesse comme nous, il y a des personnes plus âgées. Il y a des gens d'autres générations qui nous ont appuyés, qui nous ont fait confiance, qui nous ont accompagnés, mentorés. Et sans ça, honnêtement, on n'aurait pas réussi.
Oui. Et pour vous, alors Mama Bissaye de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, ça veut dire qu'il vaut mieux vous proposer des projets sur la souveraineté alimentaire ou sur le digital que sur toute autre chose, si on écoute les conseils d'Émilie Mickey?
Alors, bien évidemment, l'ADER doit accompagner tout le monde, mais doit également centrer ses projets sur les secteurs prioritaires. Et c'est ce qui fait le choix d'une telle initiative et pas d'une telle autre. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire comme mot de la fin, Emmanuel, c'est de revenir un peu aussi sur, de rompre avec les idées reçues, c'est-à-dire se dire que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour moi, c'est-à-dire un peu ce qu'on fait, un peu le deuil des interdits incorporés, et qu'il faut tenter sa chance. Quand on a plus de près de 240 000 bénéficiaires qui ont été accompagnés en moins de 5 ans, c'est du réel, c'est de l'impact sur le terrain, pas qu'économique, mais impact environnemental, sociétal, impact culturel, etc. Donc ça veut dire que les possibilités sont là. Il faut aussi que les jeunes acceptent de ne pas aller sur des projets individuels et qu'aujourd'hui, c'est un peu en se mettant ensemble qu'on arrive à avoir beaucoup plus de résonance et à capter, je pense aussi, beaucoup plus l'attention des bailleurs parce qu'effectivement, les ressources ne sont pas intarissables.
C'est ce qu'on a essayé de faire, hein, en vous mettant tous autour de la table, des bailleurs internationaux, gouvernementaux, fondations et puis bien sûr, l'entrepreneuriat des jeunes. Merci à vous tous. Merci à l'équipe à Dakar, Juliette Brose, Steven Elsley, et à Paris, Delphine de Dianous, Valentine Lemaire, Divine Berthou. Demain, 8 milliards de voisins, on sera dans la banlieue de Dakar, dans le département le plus densément peuplé et donc le plus jeune, Guédiawaye. On sera donc au cœur d'un véritable laboratoire pour les jeunesses du continent, le consortium Jeunesse Sénégal, qui rassemble des dizaines et des dizaines d'organisations, aussi bien des mouvements scouts que des start-up, et qui propose aux lycéens, aux étudiants, aux jeunes qui galèrent, un lieu, des activités. C'est une initiative unique en Afrique francophone et qui bénéficie d'un financement important à découvrir absolument demain à 10h10, temps universel sur RFI. Et d'ici là, bien sûr, vous n'oubliez pas d'envoyer vos réactions sur notre compte WhatsApp, vous le connaissez, c'est le 337 64 45 51 41. Dans quelques instants, retour dans le studio de Paris avec le journal. On se quitte avec une germano-jamaïcaine, Amber Mark, chez 8 milliards. Goddamn, this pressure is having me feeling frustrated. And all this bad weather following me like we're dating. Trying to be what they dream, what they fantasize. And still be me, myself at the same fucking time. And man, it's never been like this, I'm feeling so faded. And not in the good way that you get from drinking Jamin. Trying to see where life leads, what the future lies. Anxiety on me, keeping me up at night. It's already rough dealing with this stuff.
C'est fini.